France Inter, le 18-20.
C'est une des principales revendications des Gilets jaunes depuis deux mois, l'égal accès aux services publics. C'est aussi un des points qui revient le plus souvent dans les cahiers de doléances recueillis par les maires. C'est enfin une des questions posées par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français cette semaine, quand il demande « Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers? Voyez-vous à l'inverse des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ?» Fermez les guillemets. Alors ce soir, au téléphone sonne, on va tenter de répondre à un certain nombre de questions. Qu'en est-il des inégalités dans ce domaine et plus précisément des inégalités territoriales? Se sont-elles vraiment creusées ces dernières années? Les contraintes budgétaires sont-elles seules en cause? Faut-il encore accélérer le recours au numérique, comme l'a demandé le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, hier, au moment précis où le défenseur des droits lançait à l'inverse une mise en garde à ce sujet? Jacques Toubon s'est ému d'une dématérialisation à marche forcée des services publics, d'autant que l'accès au numérique aussi pose question. Trois invités ce soir avec nous pour débattre de tous ces sujets. Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nicolas Canounou, directeur de l'égalité et de l'accès aux droits chez le Défenseur des droits. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et le géographe François Tollel, professeur à l'Université de Toulouse, qui a dirigé l'ouvrage Services publics et territoires, publié aux presses universitaires de Rennes. François Tollel, qui est en duplex des locaux de Radio France à Toulouse. Est-ce que vous nous recevez, François Tollel?
Oui, très bien, merci.
Bonsoir à vous. Et bonsoir. On attend bien sûr vos témoignages et vos questions à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Premier appel ce soir, celui d'Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire de mairie, mais dites-nous à quel endroit?
Alors, je suis secrétaire de mairie dans une petite commune dans le sud de l'Indre, donc un département rural.
Donc vous êtes bien placée pour voir la réalité des services publics?
Oui, exactement, et surtout les conséquences de la dématérialisation. Je peux vous en parler en prenant un exemple, celui des cartes grises. Aujourd'hui, les cartes grises sont totalement dématérialisées et nous, on est confrontés à nos usagers, une part quand même assez importante de nos usagers qui sont totalement laissés pour compte dans ce système-là parce qu'ils n'ont pas d'accès à Internet. Parce qu'ils n'ont pas parfois de carte bancaire pour effectuer des transactions en ligne. Donc les conséquences, eh bien, c'est que
on vient vous voir, c'est ça, à la mairie?
On vient nous voir, oui. Bon, ben nous, on est très attachés à la notion de service public, donc on est là effectivement pour aider nos usagers. Mais on n'est pas une maison de service public. Mais bon, la maison de service public la plus proche, elle se trouve à une quinzaine de kilomètres de notre commune. Donc voilà, il faut que les gens prennent leur voiture, qu'ils se déplacent. Tout ça, ça a un coût aussi. Et donc, voilà. Moi, la question que je me pose par rapport à la dématérialisation, la suppression des services publics, c'est de savoir quelle connaissance, ou plutôt quelle méconnaissance du terrain ont les responsables politiques qui prennent de telles décisions.
Et la question contient une partie de la réponse, hein, Isabelle, quand vous la posez de cette façon-là, Bernadette Groison.
Oui, mais je crois que les responsables politiques ne se posent pas forcément la question des besoins de la population lorsqu'ils prennent ces décisions. Ces décisions de dématérialisation ont été prises dans le cadre, par exemple, de l'opération Cap 22, qui vise déjà à réduire les coûts de la fonction publique et à réduire le nombre d'emplois de fonctionnaires, d'agents publics. Et d'ailleurs, cette auditrice le dit très bien, elle dit la maison des services publics, elle est très loin. C'est-à-dire qu'on a voulu regrouper les services publics dans ces fameuses maisons en demandant aux agents d'être polyvalents, c'est-à-dire de savoir faire tout, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas être à la fois spécialiste dans les impôts, dans l'éducation, la santé, la justice, etc. Donc, je crois que la première question pose bien le sujet. La réalité des services publics sur les territoires, les besoins de services publics, on a besoin, bien sûr que le numérique va se développer.
On a besoin d'humains.
Le numérique va se développer, c'est une évolution normale, mais on a encore 30% de la population qui est très éloignée du numérique, mais on a besoin d'humains, on a besoin de contacts, on a besoin de pouvoir s'expliquer, de pouvoir comprendre mieux ce qui se passe et d'avoir les réponses adaptées. Donc les services publics, c'est pas un vain mot, ce sont déjà des hommes, des femmes, des fonctionnaires formés pour ça et partout présents sur le territoire.
Et Nicolas Canounou du Défenseur des droits, il se trouve que le numérique, c'est justement ce qui a fait l'objet du rapport hier, et les cartes grises, c'est un des sujets, un des principaux sujets de réclamation justement.
Tout à fait. Ce que dit madame, nous l'avons constaté dans nos saisines. Vous savez que le défenseur des droits, c'est une institution de la République.
Qui est compétente en matière de service public.
Qui est compétente en matière de service public, puisque notre mission, entre autres, c'est de défendre les droits des usagers dans leur relation avec les services publics. Et à l'occasion du passage au numérique des cartes grises, nous avons constaté une augmentation considérable de nos saisines, avec des cas qui sont parfois très problématiques. Des gens qui perdent leur emploi parce que ils attendent 6 mois pour avoir leur carte grise. Des gens qui n'accèdent pas à un emploi parce que ils attendent 6 mois pour obtenir leur permis de conduire et ils sont entre-temps obligés de refuser des emplois. Cette dématérialisation-là, pour nous, c'est l'exemple même de la dématérialisation à ne pas faire. Tout a été fait à l'envers, si j'ose dire, puisque l'accompagnement n'avait pas été prévu initialement. Le système lui-même a connu des incidents, des coupures, des bugs. L'ensemble des situations des usagers n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer leur situation dans l'outil. En bref, ça a été une catastrophe.
D'où la mise en garde lancée par le défenseur des droits.
Voilà.
Arrêtons cette marche forcée, quoi.
D'où la mise en garde que le défenseur des droits a lancée. Et pour revenir à la question de l'auditrice, en ce qui concerne les conséquences de la dématérialisation, nous soulignons aussi que quand on dématérialise bien, ça marche bien.
Les gens sont
ça
contents.
Ça peut être un progrès. C'est un progrès, même parfois pour l'accès aux droits. On cite l'exemple du revenu du RSA, où la dématérialisation a permis que plus de gens le touchent. Donc ça peut fonctionner. Mais quand c'est fait parfois en dépit du bon sens, et surtout sans prendre en compte le besoin des usagers, leur situation réelle, on arrive à une catastrophe. Et la conséquence, on le sait, c'est que des gens comme madame, dont ce n'est ni la mission ni la fonction qui ne sont pas formés pour ça, se retrouvent à devoir aider leurs concitoyens.
On reviendra sur tous les problèmes que pose cette numérisation, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas l'accès à Internet, ceux qui ne savent pas se servir d'Internet. On va y revenir, mais je voudrais qu'on fasse un petit détour par Toulouse, où nous attend François Tollel, qui a beaucoup travaillé sur la réalité justement des services publics dans les territoires. Ce que dit Isabelle, j'imagine, ne vous surprend pas. On vient voir l'employé de mairie quand on ne trouve plus de services publics.
Oui, en particulier les maisons de services au public. Donc, ils ont été lancés il y a déjà plusieurs années, mais il y a un plan systématique qui a été lancé à partir de 2016 pour mettre sur le territoire français 1000 maisons de services au public. Alors, on les a regardées de près. Et c'est vrai qu'on a de vraies différences dans le fonctionnement, dans la gestion de ces maisons de services au public, puisqu'il ne s'agit pas que d'investir, mais il faut aussi faire fonctionner ces lieux. Et ces lieux, ils sont aujourd'hui complètement surinvestis par le social. Il y a une dimension sociale très forte. On peut dire que ce sont des bouts de ligne des services publics. Les agents d'accueil ont des tâches multiples. C'est pas simplement gérer le service pour lequel ils sont là au titre de leur permanence, mais c'est aussi rendre des services à des populations qui viennent pour des lettres, pour se faire expliquer des courriers qu'ils reçoivent de l'administration. Et on peut se demander en fait ce que va donner ce plan de dématérialisation de 100% des services publics en 2022, mais aussi pour les agents d'accueil, puisque il y a une partie de leur travail qui sera certainement dévalorisée. En revanche, ce que vous avez dit, c'est que le numérique, il y a un véritable plaidoyer aujourd'hui pour le numérique dans les territoires, mais pour faire autre chose, c'est-à-dire pas faire simplement de la dématérialisation, mais prévoir des services innovants comme des services de transport à la demande qui nécessitent forcément une connexion Internet de bon niveau.
Merci beaucoup François Tollel. On vous retrouvera dans quelques minutes, mais on va repartir au standard de France Inter. Cette fois, c'est Jean-Baptiste qui est en ligne. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci beaucoup, merci de prendre ma question.
Et dites-nous d'où vous appelez, Jean-Baptiste.
Alors, je vous appelle de Rouen, en Normandie.
Belle ville.
Oui, très belle ville. Alors moi, je suis évidemment pas dans un milieu rural, mais je voulais poser une question et avoir la réaction de vos invités sur une découverte un petit peu désagréable que j'ai faite quant à la dématérialisation d'un certain nombre de services publics qui, vous l'avez dit, se font soit par numérique, soit par des plateformes téléphoniques qui fréquemment deviennent de plus en plus payantes. Où c'est souvent des numéros surtaxés qu'on nous invite à appeler. Je trouve que pour les personnes qui justement habitent dans des territoires ruraux, c'est la double voire la triple peine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès forcément à des services publics près de chez eux ou à des services administratifs près de chez eux, voire ce sont des services qui ferment, et en plus ils ne peuvent avoir un interlocuteur que en déboursant de l'argent pour pouvoir les appeler. Voilà, donc je trouve pas forcément ça très moral ou très normal.
Et en plus c'est énervant, taper 1, taper 2, taper 3, musique, on connaît tous la chanson Bernadette Groison. Voilà, c'est devenu ça le service public dans certains cas.
C'est parfois devenu ça, et heureusement ce n'est pas devenu ça partout et pour tous les services publics encore, mais là aussi on est toujours dans cette même logique de réduction des coûts et pire, de réduction des services publics. Et d'ailleurs, quand vous relisiez la lettre d'Emmanuel Macron, il le dit clairement. En gros, il dit, si vous voulez plus de services publics, combien on paye? Mais la première question, c'est quand même combien on en supprime. Et Édouard Philippe a fait un courrier en ce sens il y a un an, en disant: regardons les périmètres de l'action publique, mais non pas dans son idée pour les augmenter parce que les besoins effectivement de notre population vont grandissant, mais au contraire pour les réduire, pour les externaliser, les privatiser. Et donc c'est effectivement la double peine, parce que les impôts, évidemment, nous continuons de les payer, mais il y a un certain nombre de services qui deviennent payants. L'auditeur cite la situation de cette plateforme. Donc vous payez deux fois, vous payez vos impôts, et le service qui normalement fait partie du service public devient payant. Ça a été le cas pour un certain nombre de services dans les communes, par exemple les services de l'eau, les services de cantine, qui sont devenus des services privés, et où donc les parents, par exemple, continuent de payer leurs impôts au même niveau, mais voient les prix des cantines augmenter parce que ça coûte plus cher de prendre une société privée. Mais il y a un mouvement aujourd'hui quand même dans beaucoup de collectivités, où beaucoup de collectivités remunicipalisent un certain nombre de services, d'une part parce que la qualité du service public est bien souvent meilleur, et puis pour éviter évidemment ces coûts supplémentaires et qui vont en augmentant. Donc on est au cœur du débat avec ce que dit cet usager. C'est effectivement comment on garantit que les services soient bien rendus par le service public et ne glissent pas vers le privé, comment on garantit la qualité des services publics et comment on garantit les droits des usagers, bien évidemment. Et on est là au cœur de tous les principes qui sont normalement ceux de la fonction publique, les principes de proximité, d'adaptabilité, de gratuité le plus possible, ou en tout cas de coûts répartis d'une manière la plus juste socialement. Et on voit bien que là, petit à petit, on grignote sur tous ces principes et on glisse effectivement vers des services de moins en moins publics et qui du coup ne satisfont plus le public et rendent aussi très malheureux les agents qui les rendent.
Parce que les agents et la secrétaire de mairie le disaient,
nous sommes attachés à une mission et les agents de la fonction publique sont en première ligne, c'est-à-dire c'est eux qui reçoivent les agents dans les mairies, dans les écoles, et évidemment les usagers, pour s'adresser à l'État ou aux collectivités, eh bien ils prennent les fonctionnaires qu'ils ont devant eux, et d'où des relations parfois un peu compliquées, et donc des agents qui sont pris un peu en étau entre ce qu'ils voudraient pouvoir faire et ce qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire. Et je crois que le débat là aujourd'hui, il est à réfléchir comment aussi ensemble, agents, usagers, élus, on fait évoluer ces services publics, et je dis bien services publics.
Nicolas Canonou, cette question des plateformes téléphoniques payantes, c'est pareil, là aussi le défenseur des droits a été saisi. Beaucoup, les gens n'aiment pas ça, sont énervés.
Non. Notre auditeur a raison. Ça peut paraître choquant. Toutefois, c'est légal. Voilà. Et j'ajouterais que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le coût des communications et la longueur d'attente. Les délais d'attente, c'est décourageant pour tout le monde, c'est décourageant pour les usagers, ça les empêche d'accéder à leurs droits. En 2017, on a fait une étude, on s'est rendu compte qu'il y a 12% des gens qui renoncent à leur démarche administrative parce que c'est trop compliqué. Et quand vous devez passer des appels surtaxés qui en plus durent très longtemps, ça vous décourage. Et donc, vous n'accédez pas à vos droits.
Qu'est-ce que vous faites comme recommandation par rapport à ça ?
La recommandation qu'on fait, c'est d'abord d'appliquer la loi. La loi ESSOC, qu'on appelle ESSOC, qui est la loi pour une société de confiance, prévoit qu'au plus tard, le 1er janvier 2021, l'État et ses établissements publics devront mettre en place des numéros non surtaxés. Donc déjà un progrès. Alors après, ça n'empêche pas l'ensemble des administrations, des services publics, de dès à présent mettre en place cette mesure. Mais j'ajouterais que le deuxième effet, enfin la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que accéder au service public via un numéro non surtaxé, c'est très bien. Mais encore faut-il avoir une réponse. Nous, en 2016, on a fait une étude avec l'Institut National de la Consommation et on s'est rendu compte que on a testé des services sociaux, des CAF, des CEPAM, etc. Et on s'est rendu compte, Pôle emploi, dans 50% des cas, les gens qui appelaient n'avaient pas la réponse à leurs questions. Dans un certain nombre de cas, que alors même qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas Internet ou pas d'accès à Internet, on les renvoyait vers Internet. Il faut aussi que ces services publics s'emparent de la qualité, finalement, de la réponse qu'ils apportent aux usagers dans ces plateformes.
Ce sera l'occasion, en tout cas, le débat national, de répondre à ces questions. On va reparler du débat national, mais on va repartir au standard. C'est Julia qui est en ligne à son tour. Et après, on partira à Toulouse. Julia, on vous écoute. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Vous parlez d'égalité, d'inégalité, mais avant de pouvoir améliorer tout ça, il faudrait les évaluer. Or, nous vivons dans un pays où on fait des réformes sans jamais avoir évalué ce qui fonctionnait, ce qui existait déjà. Je vous donne un exemple pour l'école primaire, qui était la priorité 2017 du gouvernement de M. Macron. Bon, dans les mots, effectivement, dans les faits, on n'a rien vu. Et concernant l'école primaire, c'est géré par les communes. Donc, les communes investissent en fonction d'une volonté politique et de moyens. En 2008, la Cour des comptes préconise justement qu'un audit soit fait sur ces dépenses, ces investissements, l'efficacité. Ça n'a toujours pas été fait 10 ans après. Donc parler d'égalité et d'inégalité dans un pays qui ne fait jamais d'évaluation de ce qui existe déjà, je trouve que c'est mettre un petit peu la charrue avant les bœufs.
Merci beaucoup Julia pour cette remarque. On va poser la question à Bernadette Groison dans un instant, mais d'abord peut-être à François Tolel qui à Toulouse avec d'autres universitaires a tenté justement de faire une évaluation un petit peu de la réalité des services publics dans les territoires. François Tolel, concernant l'école par exemple, vous avez travaillé, vous avez essayé de voir un petit peu ce qu'il en était des suppressions, du nombre de mairies qui ont perdu des classes par exemple.
Bon, oui, c'est vrai que faire ce panorama à l'échelle nationale est très difficile. Parce que d'abord, il faut bien entendre savoir ce que l'on entend par les territoires, par exemple, ruraux, les territoires périurbains. Donc, nous, on a choisi, en fait, de s'intéresser, en gros, à 20% de la population, c'est-à-dire dans les zones de faible densité. Et dans ces territoires-là, on a regardé comment évoluaient les services publics. C'est un travail qui a été fait par des collègues de Dijon, Mohamed Hilal et Alexandre Barzac. Et ils ont montré qu'il y avait effectivement la progression de certains services, mais très peu. Que ce soit par exemple les pharmacies ou les EHPAD, mais en revanche, il y avait un retrait assez massif des écoles, aussi des trésoreries par exemple, des hôpitaux, des maternités. Donc on a un panorama d'ensemble. Aujourd'hui, il y a un travail beaucoup plus fin qui est fait puisque des schémas de services au public sont adoptés par les départements. C'est une contrainte de la loi. Depuis donc la fin 2017, ces schémas doivent être prêts, mais ils ne le sont pas tous puisque aujourd'hui, il y en a une soixantaine à peu près. En France, et le Commissariat général à l'égalité des territoires est en train de faire une synthèse de ces documents dans lesquels il y a pas mal d'informations sur justement l'accès des habitants aux services publics. Mais au-delà de tout ce qu'on peut regarder à l'échelle nationale, évidemment, quand on fait des études de terrain assez fines, en fait, puisque nous plaidons pour la différenciation territoriale plus que par l'opposition rurale-urbain, etc., sur ces 20% de territoires en dehors des métropoles, des territoires ruraux de très faible densité, c'est-à-dire à moins de 30 habitants au kilomètre carré, on se rend compte en fait des effets de la RGPP d'abord, de 2007-2012, voilà. Et puis aussi de la
RGPP,
de la modernisation
de l'action publique de 2012. La révision générale des politiques publiques, hein, où on supprime effectivement des postes.
C'est ça, révision générale des politiques publiques. Et donc on voit en fait que cet effet, en fait, ce travail qui a été fait au cours de ces années de pilotage par les instruments à distance avec des tableaux Excel, a produit des dégâts considérables. Mais on peut souligner aussi que les collectivités locales, les élus locaux, les associatifs sur le terrain ont su imaginer et bricoler parfois des solutions. On parlait tout à l'heure de l'école. Eh bien, l'école a su se mettre en réseau, a su inventer aussi, des élus locaux ont inventé des cantines partagées, des gardes partagées d'enfants, du transport scolaire aussi à la demande. Et donc, les élus sont imaginatifs et les territoires sont sont vraiment très imaginatifs, mais en revanche, pour toutes ces politiques publiques, comme on est dans un système d'État-providence, il y a une redistribution de l'argent public, évidemment, qui s'impose, puisque le financement de ces initiatives ne peut être géré simplement par des associations. C'est forcément la collectivité publique qui prend en charge, en fait, toutes ces initiatives.
Merci beaucoup François Tolel. Bernadette Groison, vous qui connaissez bien l'école, qu'est-ce que vous dites de tout cela et de ce que nous a dit Julia tout à l'heure?
Non mais bien sûr que les communes comme Éducation nationale et surtout les enseignants, le personnel de l'éducation peuvent faire preuve de beaucoup d'imagination, mais je crois que la raison profonde est celle effectivement de la diminution des emplois et de la réduction des services. Si vous prenez Éducation nationale, Nicolas Sarkozy avait supprimé 80 000 emplois d'enseignants. Au bout d'un moment, cela se voit dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées. Et là, nous sommes aujourd'hui dans la même logique, puisque alors que nous allons accueillir plus d'élèves dans le second degré, on va supprimer 2600 emplois d'enseignants dès la prochaine rentrée. Et si vous prenez la carte de l'éducation prioritaire avec la fameuse priorité au CP, CE1 dédoublé, le ministère crée 3000 postes, il en faudrait 5000 pour faire cette mesure. Donc évidemment que sur le terrain, à un moment, on voit qu'il n'y a pas assez d'enseignants, qu'il n'y a pas assez d'écoles. Oui, on ferme les trésoreries, les maternités, on fait beaucoup parler d'elles. Et je crois que ce qu'il faut effectivement regarder, c'est en termes d'aménagement de territoire, de besoins, où nous avons besoin des services publics, où nous avons besoin d'emplois. Et c'est déjà dans cette logique-là qu'il faut travailler. Mais là, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans ce contexte. On nous dit on va supprimer 70 000 emplois d'agents de la fonction publique territoriale, on va en supprimer 50 000 à l'État d'ici la fin du quinquennat. Et après, oui, il faut faire preuve d'imagination, faire des réseaux, des cantines partagées, etc. Mais une chose, je le redis, sont les initiatives de terrain. Il y en a beaucoup, il se passe beaucoup de choses dans les territoires. Et évidemment, on a une école, malgré tout, assez dynamique et des élus locaux qui investissent plutôt dans leur école. Mais les inégalités sont le fait de choix de politique publique. Et les évaluations, nous les avons. Je crois que nous sommes dans une société où on a beaucoup d'évaluations. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est une obligation. Quand on fait une loi, il doit y avoir une étude d'impact de la loi. Et ensuite, si vous prenez l'éducation nationale, entre les évaluations qui sont faites par le ministère, la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes produit régulièrement des rapports sur l'école, l'INSEE, on sait à peu près tout. Je ne crois pas que ce soit une question de connaissance des inégalités. Nous savons les inégalités territoriales liées aux inégalités sociales. Nous savons les difficultés d'aménagement du territoire, mais je crois que c'est une question de choix. Et dans les territoires, il faut redire quand même que les services publics font malgré tout beaucoup dans cette situation. 73% des investissements sont des investissements publics, 73% des investissements d'infrastructures sont faits par les services publics, ce qui fait que quand même l'aménagement du territoire, y compris l'implantation de services privés et d'entreprises, est permise parce qu'il y a un investissement des services publics. Donc vraiment, les services publics restent le garant, enfin pourraient rester le garant de la réduction de ces inégalités. C'est pas tellement une question de connaissance, c'est vraiment une question de choix. Or là, dans la période, pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là.
Maurice nous appelle du Doubs. Après, on repart à Toulouse, promis François Tolel. Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
Dites-nous tout.
Oui, ben écoutez, je suis moi-même syndicaliste, enseignant retraité et ancien responsable enseignant d'ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait penser les choses un peu différemment de ce qu'on les a construits et qui m'a énormément servi parce que j'étais fils de prolétaire, on va dire comme ça, dans la période des Trente Glorieuses. Je vois dans le rural, j'ai écouté tout à l'heure une mère qui a interpellé Macron en disant « si vous fermez l'école, vous tuez le village ». Eh bien, je sais par expérience que l'école ferme quand le village s'est éteint.
La question de l'œuf ou de la poule, hein, Maurice. On va poser la question à François Tolel. Quel est le processus, François Tolel? C'est quand on ferme l'école qu'on tue le village ou c'est quand le village est presque mort qu'on ferme l'école?
Alors évidemment, sur cette question de réduction des services publics sur les territoires, le modus vivendi, en fait, c'est de regarder justement la fréquence, de regarder aussi le nombre d'élèves, par exemple, c'est-à-dire d'utiliser des tableurs Excel et de constater en fait qu'il n'y a pas assez de fréquentation des bureaux de poste, qu'il n'y a pas assez d'élèves dans les dans les classes. Donc on ferme des classes, on ferme des bureaux de poste, etc. Enfin, la poste est un cas particulier puisqu'il y a une présence postale. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'effectivement, quand on démantèle un service, on démantèle en fait une communauté de vie. Et c'est pour ça en fait qu'il y a ce fort attachement des Français pour ces lieux qui constituent vraiment des repères dans des communautés villageoises. Et derrière le service qui ferme, en fait, c'est la collectivité qui est impactée. Et ça s'explique vraiment fortement, puisqu'on voit très bien que ce n'est pas simplement des usagers qui défendent le service public, mais c'est toute une communauté villageoise qui se mobilise pour la défense de l'école, pour la défense d'une classe supplémentaire, etc. Et effectivement, tous ces éléments, ils sont un système. C'est-à-dire que quand une brigade de gendarmerie ferme, par exemple, eh bien, c'est 6 familles qui sont en moins dans la communauté. Et donc, il y a vraiment un sentiment de communauté et tous ces éléments sont en interaction. Donc, évidemment, il y a un effet boule de neige, puisque à partir du moment où un service part, eh bien, ça désarticule complètement la communauté locale.
On va reprendre Maurice, parce que je crois qu'il n'avait pas tout à fait fini de poser sa question. Maurice ?
De la même façon, je pense au même village dans lequel je suis. Eh bien, il se trouve que tant que les... personne du village déposait de l'argent à la poste fonctionnait. Il se trouve que je pense qu'il serait utile que les services basiques de la poste aillent chez l'épicerie du coin pour maintenir leur activité, lui qui déjà reçoit le pain d'un village d'à côté. Je pense qu'il faut avoir comme les deux maires du village auquel je pense, l'intelligence de prévoir. Chacun n'a jamais voulu construire, les deux derniers maires n'ont voulu construire un lotissement énorme.
Maurice, je vais vous couper là parce que...
Progressivement, et comme on est près de la Suisse, ça a alimenté, c'est comme ça qu'ils ont sauvé l'école, en faisant des familles, enfin, en accueillant des familles qui avaient des enfants et qui ont maintenu l'école. Je pense qu'il serait utile de penser les choses plus en prospective qu'en défense.
Alors, merci Maurice, merci. Là, je suis obligé de vous couper parce qu'il est déjà presque 49. François Tollel, vous vouliez ajouter un petit mot à propos de la Poste ?
Oui, la Poste, alors effectivement, il y a un contrat de présence postale. Donc c'est le service peut-être qui s'est le mieux adapté à cette contrainte de présence postale qui était pour eux en fait une contrainte parce que la Poste souhaitait se retirer de certains territoires. Et finalement, aujourd'hui, donc on a des bureaux, on a des agences postales et on a des relais commerçants en fonction de la fréquence. Bon, ce qui est compliqué, ce sont les horaires d'ouverture. C'est souvent en fait à la charge des collectivités locales. Et donc, on a un système quand même de présence de la Poste dans les territoires, mais pas avec le même service. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des territoires de faible densité, vous allez avoir des relais commerçants où on pourra faire simplement quelques opérations, mais on ne pourra pas faire toutes les opérations. Et puis, je suis entièrement d'accord avec cette idée de prospective. C'est-à-dire que si on démantèle des territoires aujourd'hui, avec justement ce pilotage par les instruments, on ne prévoit pas l'avenir. Or, l'avenir, c'est aussi de laisser ce qu'on appelait dans l'Ille-et-Vilaine un bouclier rural, c'est-à-dire un certain nombre de services publics, pour que des habitants puissent revenir dans ces territoires. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'emploi, mais en fait, on a aujourd'hui des territoires ruraux qui se repeuplent. Et donc, si on démantèle ces services publics, on ne fait pas du tout attention, par exemple, à l'avenir des territoires. Et on peut considérer que les services publics, c'est aussi des investissements d'avenir. C'est-à-dire que maintenir des écoles, maintenir des points de santé aussi, parce que ça c'est très important, c'est la revendication qui vient en premier, avant le numérique. Maintenir des points de santé, maintenir des services dans les territoires, c'est aussi faire œuvre de solidarité et puis de prospective. C'est-à-dire qu'on prévoit l'avenir.
À propos de la fracture numérique, Nicolas Canonou, qu'avez-vous dit hier chez le Défenseur des Droits? Vous avez fait un état des lieux, en tout cas 500 communes en zone blanche, 500 000 Français qui n'ont pas accès à Internet et 13 millions de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Ça veut dire que c'est un vrai souci le numérique. Hein.
Oui, tout à fait. Et ça rejoint un peu la question des infrastructures. La question des zones grises et blanches, c'est pour être concret, parce que nous on est saisis de ça, hein, de gens qui n'ont pas accès à leurs droits à cause de ça. Par exemple, en Guadeloupe, des gens qui vont se voir supprimer leur allocation adulte handicapé, ils comprennent pas pourquoi, ils vont voir le service en question, ils se déplacent, et on leur apprend qu'on leur a envoyé des mails pour les informer qu'il y avait un problème dans leur dossier, voilà. Et que de plus, comme ils arrivent trop tard, ils ne peuvent pas faire de recours, donc leur situation est finie. Il se trouve que c'est des gens qui habitent dans une zone blanche. Ils ne peuvent pas recevoir ce genre de choses. C'est des gens âgés en plus, hein, de plus de 70 ans, et on leur refuse l'accès au droit. Ça, c'est très concret. Et donc, on est intervenu pour redresser la situation. Donc, nous, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est qu'il y a évidemment une fracture territoriale. On en parle ce soir, avec les zones blanches, les zones grises. Il y a une fracture sociale, parce que plus on a des difficultés, plus c'est des difficultés économiques, plus c'est difficile d'avoir un ordinateur, il y a 20% de la population qui n'en a pas, plus c'est difficile d'avoir une connexion Internet. Quand vous touchez l'allocation adulte handicapé, 40 euros de connexion, puisque c'est les prix dans les DOM, dans les territoires d'outre-mer. Hein, je rappelle qu'il y a aussi une fracture forte avec les territoires d'outre-mer. C'est impossible à financer. Et puis enfin, il y a une fracture culturelle, parce que c'est pas facile pour tout le monde d'utiliser ces procédures, et pas simplement pour les personnes âgées. Je souligne que les jeunes peuvent être aussi en difficulté, et à cet égard, nous, ce qu'on propose, c'est que il y ait toujours
un courrier,
toujours
pour les choses importantes,
une possibilité d'accéder au service public en dehors du numérique, qu'on ait plusieurs canaux d'accès. Et vous avez raison, On propose aussi que quand un usager peut perdre des droits, ou quand il y a une décision importante pour un usager, le numérique soit doublé d'un courrier, parce qu'il y a encore une grande partie des gens qui ne prennent pas en considération, ne prennent pas au sérieux ce qu'ils reçoivent sous forme numérique.
Bernadette Groison, on entend ce que nous dit le représentant du défenseur des droits, on en a entendu aussi Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui a appelé à accélérer les réformes encore et à accélérer la transition numérique. On est face à des choix politiques. Là, le débat national commence avec des questions sur l'avenir du service public. Les syndicats dans ce contexte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez contribuer, vous, à ce débat politique lancé par Emmanuel Macron?
Vous savez, ça fait des années qu'on essaye de faire passer des messages, qu'on fait des propositions, qu'on met des revendications sur la table. Donc évidemment, on est toujours dans des rendez-vous où il y a des débats, celui-ci comme tout ce qui peut se passer autour. Mais nous, rencontrer les élus, la population, et surtout, bien sûr, de là où nous sommes, d'organisation syndicale, de travailler aussi avec les agents qui font vivre au quotidien, qui sont engagés au quotidien dans ces services publics et dans ces missions. Le débat qui est posé aujourd'hui, il est très simple. C'est un projet de société, c'est éminemment la question politique, et c'est ce débat-là qui doit avoir lieu. C'est en gros, qu'est-ce qui fait aujourd'hui sens commun, qu'est-ce qui fait le bien commun? Parce que les services publics, c'est ça, c'est de l'intérêt général. C'est du service public, donc du service aux usagers. Donc le débat, c'est qu'est-ce que nous considérons aujourd'hui qui relève des services qui doivent être pris en charge par l'État et par les collectivités. La population augmente, l'espérance de vie augmente, les besoins augmentent, on a des défis énormes. Le numérique, on en a beaucoup parlé, il y a la transition écologique, il y a les besoins en santé, avec une population aussi de personnes âgées qui se développent, donc un certain nombre de sujets évidemment qui sont nouveaux. Donc les services publics, ces fameux principes dont je parlais, dont celui de l'adaptabilité, les services publics, évidemment, vont devoir s'adapter. Et je crois qu'il ne faut pas se mentir. Et dans ce débat, il ne faut pas ni le gouvernement, ni personne se trompe de sujet. On aura besoin, au XXIe siècle, si nous voulons faire société ensemble, si nous voulons réduire les inégalités, faire du commun et de la cohésion sociale. Je rappelle qu'en 2008, tous les observateurs étrangers ont dit, la France s'en sort mieux dans la crise parce qu'elle a des services publics et des services publics de qualité. Donc, voilà, nous avons, et les Français croient en ces services publics, hein, plus de 67% des Français sont attachés vraiment à leurs services publics. Donc il y a ce besoin de services publics, nous avons ce débat à mener et à partir des besoins, des services publics évidemment à construire ensemble, et je crois que ce débat, il doit aboutir à redéfinir des services publics et à se dire comment effectivement ils sont financés, parce qu'on ne peut pas rentrer par le côté économique.
Mais la question est posée, politique. Hein, et dans nous les questions.
Dit, oui, mais on peut pas rentrer en disant on n'a pas les moyens. Ce que dit Didier Migaud, ce que dit Emmanuel Macron, donc il faut réduire. Non, regardons quels sont les besoins.
Emmanuel Macron demande même s'il faut supprimer.
Oui, mais voilà, mais bien sûr, mais parce qu'il rentre uniquement par la logique économique et comptable. Donc regardons quels sont nos besoins et à partir de ces besoins, regardons comment nous faisons vivre des services publics de qualité. Et je le dis, ça passe aussi par des agents. Plus de 5 millions de personnes aujourd'hui travaillent au service des services publics de la fonction publique, qu'elles soient de l'État, des collectivités territoriales ou de l'hospitalière. Et donc, on fera aussi mieux de services publics si on forme mieux ces agents, si on les rémunère mieux et si, effectivement, on leur permet de vraiment, au quotidien, remplir des missions de qualité. Merci. C'est ça qui est demandé aujourd'hui,
merci,
je crois, par la population et par les élus.
On va aller faire un petit tour à Toulouse parce que l'émission se termine. François Tolel, vous qui êtes géographe et qui avez beaucoup travaillé sur cette question du service public dans les territoires, la priorité des priorités pour vous, ce serait quoi au moment où s'engage ce grand débat national?
La priorité des priorités, ça serait certainement d'éviter des généralités, c'est-à-dire de ne pas raisonner sur des grands blocs, sur des oppositions, sur par grands ensembles géographiques, mais peut-être de regarder finement ce qui se passe dans les territoires, de faire confiance aussi aux initiatives locales, mais de maintenir aussi un système redistributif, parce que, comme l'a dit la personne tout à l'heure qui était interrogée, nous avons un système qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire un système qui est redistributif. Et aujourd'hui, les Français, ils sont attachés à cette redistribution, ils sont attachés aux services publics, parce que c'est dans l'ADN, en fait, des Français. Mais en revanche, ce qu'ils remettent en cause, c'est les modalités de prélèvement, c'est-à-dire tout le débat qui est actuellement sur la fiscalité, et en même temps, les modalités de la redistribution. Parce qu'évidemment, dire qu'on va supprimer des services publics parce qu'il faut faire des économies, c'est pas suffisant, c'est trop court. On peut aussi sanctuariser certains services publics. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. L'avenir, c'est d'arriver à bien expliquer qu'il y a un mécanisme vertueux, qui est celui de l'État-providence. Et le laboratoire, par exemple, des inégalités le montre très bien, sous la direction de Thomas Piketty, qui montre en fait qu'il y a une redistribution qui permet d'avoir des inégalités contenues par rapport à d'autres ensembles géographiques dans le monde.
Merci.
Donc quand on sort un peu, quand on va aux États-Unis, quand on va en Amérique du Sud, on se rend compte en fait qu'on a une chance d'avoir cette redistribution. Maintenant, c'est les conditions de la redistribution qui méritent d'être mises en débat.
Je suis obligée de vous arrêter. Merci François Tolel. On va laisser quand même le mot de la fin et en 20 secondes à Nicolas Canou, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur franceinter.fr aussi, sur le numérique, ça coûte cher la transition numérique. En deux mots, la priorité pour le défenseur des droits, c'est quoi? C'est l'accès de tout le monde et puis c'est peut-être former les gens aussi.
Oui, c'est former les gens, c'est accompagner les usagers. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'une partie des économies théoriquement liées à la dématérialisation soit recyclée dans l'accompagnement des usagers par des professionnels, par les services eux-mêmes.
Et c'est la fin.
Et ben voilà.
Et ben merci beaucoup.
Merci
Bernadette Groison.
Merci.
C'est passé vite. Et oui, c'est passé vite. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à tous de nous avoir appelés. Désolé pour ceux que nous n'avons pu prendre à l'antenne. Merci à celles qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. La réalisation ce soir, Marianne Crimbaud. À la technique, Loïc Frapsos, Fabrice Desmas, Tristan Gratalon. Merci aussi à nos amis de France Bleu à Toulouse, à nos standardistes, à June Loper qui lit vos messages. Et mention spéciale à nos amis de la documentation d'actualité.